archaïsme de l'île, où que ce soit, les corps humains sont à l'image du Dieu, puisque c'est dans les textes bibliques. Et si, au contraire, on lève l'hypothèque divine, le corps humain n'est plus une sorte de sanctuaire à l'image du Dieu, mais devient un phénomène vivant, complexe, comparable aux autres. Et on a aussi dans le rapport, y compris, c'est pareil, la folie. La folie où les maladies mentales étaient considérées comme des possessions, donc aussi s'écarter du divin, pour être possédé par le diable ou le démon. Et le fait de mettre de côté les explications religieuses autour du corps ou autour de la folie amène à voir l'esprit, les fantasmes, les horreurs, la folie, les maladies mentales, et le corps autrement. Et c'est tout le grand chemin d'ailleurs du 19e siècle qui va être beaucoup lié à cette façon de s'écarter des modèles religieux. Donc on va redécouvrir progressivement aussi la chair, y compris dans l'érotisme, la sexualité, jusqu'au Freud, 100 ans plus tard. Mais si vous voulez, c'est un long chemin, effectivement. Et le corps, la chair, effectivement, c'est quelque chose qui est interrogé. Autre chose, la mort dans l'histoire de l'art était presque toujours représentée, reliée à soit la religion, mort en martyr, mort, ou les morts héroïques pour l'histoire. On mourait toujours pour quelque chose. Donc il y a toujours un enjeu quelque part où si on perdait la vie, c'était représenté, les morts étaient représentés sur les scènes de bataille ou dans les scènes religieuses. Vous n'avez quasiment jamais représenté la mort telle qu'elle est, brute, simple, sans finalité ou sans transcendance, on va dire, sans dépassement. Et là, vous allez voir à Jéricho, il y a des choses qui vont intervenir, et c'est pour ça que c'est un artiste qui, bien que mort très jeune, à 37 ans, le peu d'œuvres qu'il a faites sont quand même des œuvres qui marquent l'histoire de l'art. Alors là, c'était une scène du déluge, et je sais pas, je crois que je m'étais arrêté là, parce que vous avez parlé de la métaphore de la mer aussi. La mer et le déluge, parce que la mer, c'est le grand inconnu. À la fin du 19e siècle, on a fait à peu près le tour de toutes les terres émergées. On est allé au pôle, au nord, au pôle sud, il y a des cartographies de la Terre, etc. On commence à regarder les planètes et les cieux de façon à peu près claire, etc. Mais il y a un domaine dans lequel on ne peut pas aller, c'est sous l'eau. C'est que la mer, c'est le grand inconnu. Même encore maintenant, vous savez que c'est plus difficile d'aller sous l'eau que d'aller sur Mars. Mars, c'est une question de temps. Aller à 10 000 mètres de profondeur sous l'eau, c'est plus complexe. Donc, si vous voulez, c'est un truc tout bête. Mais c'est un grand inconnu. Et la mer a des caractéristiques qui peuvent être très facilement devenir métaphoriques. Comme par exemple l'inconscient. On ne parle pas encore d'inconscient, mais la folie, les monstres cachés sous la mer, qui font partie des légendes. Les baleines, les calmars géants, etc. Je vais le dire plus tard avant de partir, etc. Plus les états d'âme. Les états de la mer qui peuvent être effectivement sauvages, déchaînés, calmes, reposants, etc. Donc vous avez l'idée, la mer devient aussi un thème pictural, souvent chargé d'un sens justement aussi romantique, parce que c'est aussi le voyage, l'inconnu, l'ailleurs, et puis aussi parfois qui peut être très séduisant et en même temps associé à la vie ou à la mort, puisque la mer c'est aussi cette eau salée originelle, et en même temps les tempêtes, la mort, la déchirure, etc. Donc le déluge, en engloutissant tout. Donc vous allez avoir, Jéricho ne sera pas le seul, on verra plusieurs artistes qui vont travailler sur la mer, mais avec un contenu et un enjeu, et aussi qui est associé à l'insondable comme la folie. C'est pour ça qu'on peut associer aussi cette idée de l'insondable, les ténèbres de sous la mer, etc. Parce que les ténèbres de la nuit, on sait que ça ne va durer que la nuit, et puis ça va se lever, et puis il y a les lumières, il y a les étoiles. Mais les ténèbres sous l'eau, c'est vraiment absolu. Alors, ça c'est une scène de déluge, et vous avez vu l'idée du noir et blanc, de lueur, de panique, de quelque chose d'extrêmement inquiétant, et traduit ici par Jéricho. Alors évidemment, si je vous ai parlé de ça, c'est à cause de cette peinture remarquable qui va faire date dans l'histoire, c'est le fameux radeau de la Méduse. Donc voilà un brouillon et un autre brouillon. Alors des brouillons quand même pas mal. Alors, le radeau de la Méduse est une toile gigantesque, très très grande, elle est plus grande même que certains David, vous la connaissez tout au Louvre, etc. Je ne sais plus exactement sa dimension, mais ça doit faire au moins 8 mètres, voire peut-être plus, de long sur peut-être 3,50 m de haut, parce qu'elle n'est pas là. Mais, non plus, voire peut-être plus que ça, ou alors, enfin bref, 7,5 m, enfin bref, elle est énorme. Et alors, en ce sens-là aussi, elle est très. Elle fait date dans l'histoire de l'art. Elle fait date à plusieurs degrés. D'abord, vous avez effectivement des morts pour rien. Il ne s'agit pas d'une scène religieuse, ni d'une scène mythique, ni d'une bataille. On est effectivement dans quelque chose, ce qu'on a dit, un fait divers. C'est un fait divers, mais auquel Géricault donne une dimension monumentale. Alors, là aussi, Géricault a très bien conscience de la taille de sa toile. Autant il est capable de faire une petite toile, comme par exemple celle des monomanes, qui sont des petites toiles sur lesquelles on va se concentrer. Mais il sait très bien qu'en donnant une importance mythique à un fait divers, il a aussi bouleversé les catégories même de la peinture. Parce qu'à grand sujet, il fallait grande toile. Petit sujet, petite toile. C'est la tradition de l'académie. Et Géricault, lui, fait presque le contraire. Mais il le fait de façon très politique, et en ce sens-là, il avait compris David. David qui utilisait la mythologie pour faire de la politique, et parfois qui mythologisait la politique qui lui était contemporaine. En fait, ce fait divers, c'est un fait divers, vous connaissez peut-être, je vous rappelle quand même les choses, qui est extrêmement politique. Alors, je reviendrai un petit peu sur la mise en scène, précisément, de ce travail. Mais, ce que vous avez ici, c'est effectivement quelques rares survivants des naufragés de la frégate La Méduse, qui était une très grande frégate, un des plus beaux bateaux français, qui était considéré comme un des fleurons de la flotte française. Et il faut savoir qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, tout le savoir humain le plus sophistiqué est concentré dans la navigation. Encore d'informatique ni d'électricité, ni même de mécanique, de vapeur, etc. Donc, si vous voulez, tout le savoir mathématique, le savoir des charpentiers, le savoir des cartographes, le savoir des océanographes, le savoir des astronomes, le savoir de tous ces savoirs-là sont concentrés dans la navigation. C'est une sophistication incroyable, y compris la qualité des voiles, des toiles, etc. Plus les stratèges, plus survie en mer, vous avez donc quelque chose. Ces bateaux sont des chefs-d'œuvre. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des bateaux de cette époque-là, ou même des musées de marine, c'est hallucinant. Donc c'est un fleuron, c'est pas n'importe quoi. Mais il se trouve que cette frégate, alors, dans la tradition française héritée des compagnies des Indes orientales, les bateaux pouvaient être à la fois militaires et commerçants. Il y avait une fusion un petit peu des intérêts commerçants avec des, on va dire, le cadre de l'État. On verra aussi plus tard avec les corsaires, ou on voit aussi avec les corsaires, etc. C'est que marine et commerce fonctionnent ensemble. En fait, vous y avez des passagers sur ce bateau, y compris des gens représentants de l'État, etc. Et les capitaines étaient nommés d'ailleurs par le gouvernement. Et c'est là que se situe la dimension politique. Géricault a fait cette peinture en 1818. C'est en plein moment de la Restauration. Parce qu'en fait, l'événement, le radeau de la Méduse, est lié à la Restauration. C'est une histoire politique. Pour faire simple, après la chute de Napoléon, il y a eu une chasse aux sorcières. Tous ceux qui étaient, tous les responsables qui avaient été révolutionnaires ou républicains ou bonapartistes ou napoléoniens, ont été écartés, y compris des gens très compétents. Des gens très compétents dans toutes les institutions ont été mis de côté et ont été remplacés par des aristocrates qui avaient été émigrés et qui revenaient en France et qu'on a placés un peu comme du copinage, et etc. Donc vous avez plein de gens incompétents qui sont trouvés à la tête de fonctions essentielles. Comme par exemple le capitaine de la Méduse, qui était quelqu'un qui a été placé là, qui n'était pas d'expérience de la navigation, qui était un aristocrate aussi placé là sans expérience, et qui a remplacé le capitaine de la frégate, qui lui était extrêmement compétent. Et ce bateau qui faisait course vers Madagascar, etc., vers l'Afrique, etc., a échoué sur un banc de sable, qui est connu d'ailleurs, et puis il est resté plusieurs jours comme ça, est-ce qu'il a coulé, pas coulé, etc., chercher des secours, pas chercher des secours, etc. Non, c'est pas mon affaire, c'est l'autre côté. Non, c'est côté Atlantique, je crois. Enfin bref, dirait-il que le bateau menace, ils ne savent pas très bien que faire, je résume, le capitaine et une partie des officiers prennent les chaloupes les plus importantes. Il y a 4 ou 5 chaloupes, donc certaines traînent les autres, et ils essuient une tempête. Les bateaux qui ont des rames et qui sont plus mobiles et qui traînaient les autres finissent par couper les amarres au risque de tous se noyer, etc. Et pendant ce temps-là, il y en a qui étaient restés sur le bateau avec l'idée qu'ils allaient chercher les secours. Ce qui se passe, c'est que les chaloupes qui étaient traînées par les chaloupes mobiles sont abandonnées hein, en queue de mer. Le bateau qui était échoué, qui était encore entier, est balayé par une tempête et se fracasse quasiment. Et le capitaine et l'officier regagnent les côtes d'Afrique et rentrent quasiment par les péripéties multiples, mais sont incapables d'envoyer des secours. Et quand les secours arriveront, il sera beaucoup trop tard, puisque justement le bateau, la Méduse elle-même avec les passagers, avec des, je crois, presque 200 personnes qui étaient là, ont construit un radeau énorme. Hein. Là, on voit qu'une petite partie. Alors, Géricault s'est remarquablement renseigné, mais en fait, vous voyez, le radeau, normalement, se continue beaucoup plus loin. Le radeau faisait plusieurs dizaines de mètres de long. C'était avec des bidons, des poteaux, des haubans. Il a eu le temps de construire un radeau qui était à peu près navigable. Mais très vite, ça devient infernal. Manque de vivres, l'eau arrive jusqu'aux genoux quasiment de presque tout le monde. Des disputes, des bagarres, des meurtres, des exécutions, de la répression entre les naufragés. Totalement abandonné. Et qui voit les secours qui n'arrivent pas. Et ce que l'on sait, et c'est même effroyable, c'est qu'il y a eu des scènes d'abord de meurtres, d'exécution, certains se sont débarrassés de ce qui était en trop pour pouvoir survivre, hein, des scènes horribles, des scènes d'hallucination, y compris parce qu'à boire de l'eau de mer, etc., manquant de ce moment, des scènes d'hallucination, et ensuite pour survivre, des scènes de cannibalisme très programmées, hein, avec y compris de la viande mise à sécher sur les haubans, etc. Au point que quand ils ont été retrouvés, effectivement, il y avait, ils étaient dans un état effroyable, mais il y avait ce que l'on voit sur les haubans, là, les tiges, il y avait des morceaux de viande qui avaient été mis à saler et à sécher, la viande humaine. Donc c'est une catastrophe horrible. Et c'est quelque chose ensuite, ce naufrage à Méduse, il n'y a pas la presse encore qui a, mais il y a quand même de la presse, mais ça a été en gros étouffé. Et ensuite, ça a été connu parce qu'il y a eu un procès. C'est que les survivants ont attaqué en procès le capitaine et les autres qui avaient abandonné le bateau. D'ailleurs, j'ai appris que le bateau là, qui s'est échoué, le bateau italien, c'est pareil, le capitaine était parti avec les officiers. Il y a eu Costancordia où il avait déjà fait ça, mais récemment, il y a eu un naufrage. Et il s'est passé la même chose. Donc, le radeau de Méduse. Toujours est-il que le procès a permis d'avoir les actes très précis, et c'est publié, c'est passionnant, c'est extraordinaire, mais en même temps c'est horrible, de cet abandon. Alors, pour Géricault, c'est devenu un emblème total, justement, d'un pays, la Méduse devient la France. Les dirigeants incompétents qui abandonnent la population, c'est la Restauration, ce sont les royalistes, qui effectivement abandonne la France, etc., au chaos et à n'importe quoi. Et vous avez une métaphore politique qui est que, effectivement, cette peinture-là qui montre un fait divers, le fait divers qui est relativement sobre, parce que souvent on ne voit pas les coupables, on ne voit pas de coupables, on ne voit pas les bateaux ayant abandonné. Ce que l'on voit éventuellement dans une version, c'est une voile qui apparaît ici à l'horizon. Et donc c'est plutôt le sauvetage, et vous n'avez pas, mais là on la voit encore. Dans l'autre, il l'a abandonné. Alors, il a représenté, une toute petite là, voilà, ici. Il a représenté, les seuls que l'on voit de face sont effectivement les deux personnes qui ont vraiment témoigné. Ici, vous avez un père, théoriquement, et son fils, ça fait écho à des scènes véritables. Toujours est-il que vous avez, donc, Géricault a modéré, hein, c'est pas un pamphlet directement, mais c'est une sorte de vision tragique, hein, d'un peuple où justement, et là, vous avez des morts pour rien. C'est cette idée justement terrible et qui est nouvelle, c'est que vous avez des cadavres. Alors, une partie des cadavres qu'il a observés, c'est pour faire au premier plan, c'est mort pour rien. Cette espèce de pour la bêtise, l'incurie, l'incompétence, et vous avez des gens qui ont presque été sacrifiés sur l'autel de l'imbécilité politique, hein, et d'une sorte de revanche mesquine des royalistes au moment de la Restauration. Alors, il le traite avec une force incroyable, d'abord la dimension. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette peinture, presque tous les gens ont compris. Presque tous les gens ont compris la métaphore. Et donc, elle a eu un succès assez rapide, parce que ça se savait quand même, et cette idée d'un peuple abandonné, qui en vient à se déchirer aussi. Parce que ça, c'est un des grands thèmes de Géricault que l'on voit ici, c'est l'idée de la déchirure. Parce que c'est la première fois, quasiment, que vous avez une peinture qui n'est pas au centre, il n'y a rien. Vous avez une tension vers la gauche, une tension vers la droite. Ils veulent aller vers la droite, le vent les pousse vers la gauche. Vous avez de la lumière vers la droite, vous avez la tempête et les nuages vers la gauche. Tous les personnages sont partagés aussi entre ombre et lumière. Ils sont tous déchirés. Ils nous tournent le dos, sauf quelques rats, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bien que symétrique, regardez, la grande tradition classique chez Géricault, c'est que vous avez un cadavre oblique à droite, un cadavre oblique à gauche, vous avez une composition ici même avec une sorte d'axe de symétrie, pyramide vers la droite, pyramide vers la gauche, mais cette idée d'une déchirure. Cette déchirure, elle, c'est typiquement romantique, justement. C'est ne pas pouvoir décider, ne pas trouver sa place sur le monde. Et cette instabilité, il a traduit y compris avec la structure ici en V du radeau, qui est appuyé comme sur une pointe, qui peut basculer à gauche, à droite, etc. L'instabilité. L'instabilité sur la mer est traduite y compris par l'instabilité de la composition. Vous avez donc, de ce point de vue-là, c'est très fort, son tableau, parce qu'il est d'une cohérence remarquable. Alors, ce qui est marrant, c'est de voir que ce n'est pas le cas dès le début. Hein. Vous voyez, c'est un travail. C'est un travail de recherche, et il aboutit à une sorte de, presque un schéma, une construction très claire, presque une symétrie dynamique, comme on le voit d'ailleurs ici, vous n'avez pas cette espèce de pyramide, hein, vous n'avez pas le fait de s'appuyer ici sur la tranche, vous avez des scènes principales qui sont représentées, et même là, il commence à y avoir cette espèce de construction en V, il y a à peu près les deux pyramides, mais il n'y a pas l'espèce de radicalité, y compris de déchirure de la lumière, hein, il y a presque un peu trop de lumière vers la droite, etc. Alors, et vous avez ici des corps qui sont presque encore un peu maniérés, qui n'ont pas cette espèce de rigidité cadavérique et verdâtre des cadavres que l'on voit ici. Alors, Géricault a l'intérêt en même temps d'avoir, je ne sais pas si vous avez vu de près sa peinture, c'est qu'il y a en même temps un grand classique, les anatomies, la largeur de ses gestes, les carnations, c'est, de ce point de vue-là, il est un représentant de la grande peinture classique, on va dire, ou néoclassique, du point de vue de la manière de l'anatomie, de la règle, la lumière venant de la gauche, l'ombre à droite, une composition symétrique, et en même temps, il commence à casser les règles, hein, sur la dimension, sur le sujet, sur la déchirure, et y compris sur le thème, le sujet. Donc vous avez avec là, alors, cette idée justement des abîmes, des abysses, de perdre ses repères, c'est lié aussi, c'est un peu l'équivalent dans la folie. Dans la folie, vous avez l'équivalent. Hein, on perd ses repères, on sombre, il n'y a plus personne à la tête du gouvernement, il n'y a plus personne à la tête de celui qui est malade mental. Donc cette idée de perdre ses repères, c'est cohérent. Donc quand il fait les monomanes, quand il fait ça, vous voyez que c'est une cohérence aussi dans sa pratique artistique. Ça c'est important. Donc ça, c'est un des grands subtilités et finesses de Géricault, c'est cela. Et vous voyez bien aussi comment il construit son travail, parce que c'est un travail très long, alors sur lequel on dit, et je crois que c'est vrai, que Delacroix l'a aidé, c'est un travail gigantesque. Géricault avait quand même une certaine reconnaissance, donc son travail gigantesque, il a mis des mois et des mois à le concevoir et à le réaliser, et il a fait des recherches pour cela. Alors d'ailleurs, ces recherches sont l'occasion d'une série de portraits qui, on pense, étaient destinés à se familiariser avec le type de visage et de figure qu'il y avait sur l'équipage, dans l'équipage. Et vous voyez bien la grande différence aussi avec l'art néoclassique. David, lui, idéalisait les figures. Là, vous avez Géricault, et le romantisme a quelque chose qui a à voir avec la réalité en même temps. Puisque le romantique parle de son rapport au monde réel, de son malaise dans la réalité. Donc il n'est pas là pour idéaliser. Donc vous avez aussi dans le romantisme quelque chose qui va générer plus tard ce qu'on appelle le réalisme. C'est-à-dire tout d'un coup, on va regarder. Alors, sauf que là, c'est pour exprimer un grand malaise, un désagrément, un souci, une perte de repère. Mais dans la pratique, il y a quand même cette idée de faire le point sur le monde dans lequel on vit. Par exemple, la folie, hein, quand il regarde les monomanes, quand il regarde les chairs découpées, etc., il y a une dimension romantique, et en même temps, il y a ce que peut nous dire le monde réel. Donc ces portraits, comme par exemple ici ce portrait de marins, hein, alors des marins qui serviront à faire des personnages qui seront dans la marine, que l'on voit ici. On voit d'ailleurs que ce sont des études, hein, parce que c'est inachevé, c'est des études très poussées, un peu comme ces morceaux de bras, de chair, de tête, de cadavre, qui sont assez remarquables. C'est un des intérêts aussi de voir les personnages de type africain d'origine, et qu'on trouve rarement dans la peinture. Et là, vous avez aussi, avec Géricault, une sorte de l'état au prix du monde. Et là encore, ce que vous avez, c'est trop contrasté. Dans la réalité, c'est plus nuancé, c'est moins jaune. Mon image est meilleure, désolé. Là aussi, alors, il va faire poser aussi des vrais gens. Hein, ce ne sont plus des héros, ce ne sont plus des capitaines idéalisés, ce sont plus des... Et comme il avait pu trouver des cadavres, ou des gens malades mentaux, etc., vous avez une sorte de retour aussi à du réel, sans idéalisation, avec un intérêt, une diversité peut-être du monde réel, plus intéressant peut-être que des figures idéalisées. Comme par exemple ici, ce passage qui lui servira aussi pour un des marins du radeau. Là encore, donc c'est une véritable galerie de portraits. Alors par contre, ils sont éparpillés dans un tas de musées, un tas d'endroits. Hein. Moi, j'ai réussi à grappiller dans plusieurs trucs pour mettre ensemble à peu près tous les Géricault. Je ne sais même pas où ils sont tous. Hein. Ce qui est bien dans ces études, ça c'est valable d'une manière générale, rappelez-vous que presque dans les croquis, dans les brouillons, dans les études, il y a parfois plus de liberté. On n'attend pas le jugement d'un public, on n'essaye pas de correspondre à des attentes précises. Donc, vous avez une sorte de peinture brute, au sens qu'elle n'a pas d'idée préconçue. C'est en ce sens-là, comme on verra bientôt Courbet, qu'on verra qu'il y a un rapport, y compris entre les réalistes comme Courbet et les romantiques. Bien qu'on pourrait croire qu'ils soient opposés. Là, alors là, si, superbe. Alors, ce qu'on va trouver aussi dans les portraits de Géricault, c'est la tension. Alors là, il ne s'agit plus de Beaujolais, mais s'il avait été capable d'exprimer la folie ou la monomanie dans des regards, eh bien, l'inquiétude, l'état d'âme, c'est quelque chose aussi qui importe à Géricault. C'est-à-dire que ces corps-là, cette fois-ci, ce sont des morceaux de corps, ce sont des vrais êtres qui ont tous une sorte de vie intérieure. Ça, c'est typique aussi d'un certain romantisme, c'est suggérer une vie intérieure. Donc, il y a cette espèce de côté réaliste, face-à-face avec les figures, hein, que l'on voit au sens strict, c'est un face-à-face, sa face et les personnes qui le regardent, mais si vous voyez bien tous, ils ont tous des regards qui sont denses, hein, et qui regardent quelque part ailleurs, au sens strict. Alors cette idée de l'ailleurs, rappelez-vous aussi que c'est quand même aussi un thème romantique. C'est là, en fait, ils sont face à lui, mais ils regardent ailleurs. Donc, à la fois bien là, et quelque part, dans une sorte de tension. Là encore. Alors évidemment, ça correspond parfaitement à son projet, parce que c'est des études pour le radeau de la Méduse. Sur le radeau de la Méduse, s'il y a bien un souhait, c'est celui de ne pas être là. Donc, c'est d'être ailleurs. Donc, si vous voulez, on voit bien que c'est une sorte de matérialisation concrète, du romantisme d'une manière générale, qui est la maladie des enfants du siècle, etc., le spleen baudelairien ou le Chateaubriand, c'est cette idée justement d'un siècle où on ne trouve plus sa place, on ne sait plus quels sont ses repères. Et ça commence vraiment aussi avec la Restauration, puisqu'il n'y a plus d'idées. Un des mérites de l'épopée napoléonienne, c'était de croire à des objectifs, de croire encore qu'on était à la continuité d'anciennes idées. Mais là, vous avez une sorte de retour trivial au pouvoir, à l'argent, à la restauration des privilèges, à la revanche, et sans plus aucune idée, sans plus aucune perspective. Donc si vous voulez, le romantisme va se nourrir de cette espèce de perte totale d'objectif. Et au contraire, un retour à une société extrêmement mesquine, qui n'a qu'une seule idée, hein, c'est d'accumuler des biens, de consolider un pouvoir. Et on verra ça plus tard. Ce qui fait que... Comment ?
Très actuel.
Ah, j'ai totalement...
Ça n'a pas changé.
Ah, mais c'est le 19e siècle pour ça. On est en plein dedans. D'où beaucoup d'attitudes romantiques, bien sûr.
Mais le radeau de la Méduse, c'est notre avenir.
Ben, c'est pour ça que ça parle beaucoup. Hein, mais ça, c'est assez évident. Hein. De toute façon, le 19e siècle, c'est le siècle des... capitalisme, intérêt à court terme, etc. Et puis aussi d'une bataille pour le pouvoir permanente, donc d'une lutte permanente, y compris pour l'image, pour la représentation. L'art pompier existe encore, hein, l'académisme aussi. Les curés, maintenant, c'est des journalistes et des médias tamponnés. J'exagère un peu, mais on n'est pas là. Alors, vous avez aussi, dans le radeau de la Méduse et dans le thème de l'ailleurs, on a vu qu'il peut y avoir la mort, il peut y avoir la mer, donc avec l'horizon aussi, mais vous avez aussi d'ailleurs les figures d'hommes venant du continent africain, c'est déjà aussi un ailleurs, c'est un autre type de corps, c'est un autre type de peau, c'est quelque part c'est un ailleurs. Et là aussi vous avez un type oriental, une femme orientale, donc chez Géricault, alors vous aurez plus tard la mode de l'orientalisme, on verra que parfois elle, tient plus du tour opérateur que de véritable orientalisme, on verra la différence, mais vous avez certains artistes qui vont trouver dans, en Orient et dans l'ailleurs, justement l'ailleurs d'autres civilisations, d'autres cités, d'autres peaux, d'autres esthétiques, d'autres corps, quelque chose aussi qui tout à coup va aussi ouvrir leur horizon. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va trouver, le romantisme va faire naître cette curiosité, cet intérêt pour d'autres manières de voir, d'autres beautés. La beauté n'est plus académique ni classique, elle peut être justement, elle peut être, exister de façon totalement différente. C'est en ce sens-là que des gens comme Géricault et Robert Delacroix sont vraiment des artistes qui vont nourrir des branches entières de l'art moderne, hein, du 19e siècle, jusqu'à l'impressionnisme, évidemment, j'essaie de vous montrer la continuité. D'abord la prise directe. Alors là, c'est une figure, alors là, totalement romantique, c'est extrêmement moderne. Hein, vous voyez, là, je suis, on dirait presque Xavier Dolan, hein, avec ça. Mais c'est vrai, l'air un peu... voilà. Regardant aussi un gueulard, etc. Mais donc, on n'est pas dans cette espèce de lyrisme comme ça qu'il peut y avoir au XVIIIe siècle. Il y a quand même une sorte de grande mélancolie, parce que les corps, là aussi, ont une difficulté d'action. Une difficulté d'action, et ça on le voit aussi, ils sont privés d'une certaine action. Sur le radeau de la Méduse, ils ne peuvent rien faire. Hein, les personnes malades mentales ne peuvent rien faire. Et c'est d'autant plus dur que, et ça c'est typiquement français, le rapport à l'action, c'est maintenant en Algérie, mais c'est que cette idée, c'est que la Révolution française a montré qu'on pouvait agir. On pouvait agir sur le monde. Donc, on pouvait transformer les choses. Et tout d'un coup, il y a un coup d'arrêt terrible, c'est que cette action, cette possibilité d'une action révolutionnaire ou sur le monde, elle, tout d'un coup, elle est totalement brisée. Elle est brisée, c'est comme si, effectivement, une partie de la population, on lui avait brisé les mains et les jambes. Il ne reste plus que rêver, il n'y a plus que la tête, il n'y a plus que ça, qui peut rêver, etc. Donc, c'est une espèce où rêver à des ailleurs. Et ça, c'est aussi assez typique, l'idée de priver de ses moyens d'agir. Hein. Ça, c'est typique de cette... Alors, on est en plein dans l'après... juste après la chute de Bonaparte, Napoléon, et la Restauration. Alors, vous pouvez lire... Vous lisez Stendhal, vous lisez tous les écrivains de l'époque, expriment exactement ce sentiment. Hein. Donc, Confession d'un ancien du siècle, que ce soit Musset, que ce soit Stendhal, que ce soit Chateaubriand, que ce soit Victor Hugo, etc. On est toujours dans... Victor Hugo, on est toujours dans l'ailleurs. Hein, que ce soit Notre-Dame de Paris, etc. Victor Hugo, par exemple, quand il y a des révolutions, j'y reviendrai, tout d'un coup, quand l'action devient possible, alors là, ça devient l'action révolutionnaire, une sorte de romantisme révolutionnaire, on va tout d'un coup le retrouver, comme on le retrouvera avec Delacroix. Donc, vous voyez, on est vraiment là dans une frustration de l'action, et le sentiment de solitude est d'autant plus fort qu'il y a eu des actions collectives, qu'il y a eu l'idée d'une participation. Rappelez-vous David, qui célébrait, par exemple, une bonne partie de ses peintures, l'idée qu'une action collective, l'idée d'une pensée, d'un futur collectif. D'ailleurs, là, on est dans la déchirure. On est dans, tout d'un coup, on se retrouve tout seul, privé de possibilité d'agir. D'où une grande mélancolie. Alors, par exemple, chez Géricault, ça s'exprime aussi par les contrastes noir et blanc, beaucoup de couleurs sombres, de contrastes forts. Alors, ça, ce sont des portraits, ça, j'ai retrouvé des portraits que je ne connaissais pas. C'est des portraits... de la fille d'un de ses amis, Horace Vernet, hein, qui est un peintre, mais qui est très moderne également. Alors là, il y a un petit problème quand même de proportion, surtout au niveau du visage, etc. Mais c'est une jeune fille, on n'est plus du tout dans le néoclassicisme. Là, il y a quelque chose de très libre. Hein, on verra plus tard avec Courbet, ça évoque certaines choses que Courbet verra plus tard. Une petite fille, elle n'est pas du tout dans le maniérisme qu'on est pu voir au XVIIIe siècle, douteux. Là, quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus simple. D'accord. Le chat. Là aussi, alors, hein, un art animalier qui n'est pas du tout dans le spectaculaire. Hein, on avait vu d'ailleurs sa sensibilité au monde animal avec les chevaux notamment. Il en a fait une grande quantité. Un superbe chat blanc, dans une posture un peu étrange. Et là encore, la fille et le fils... d'amis à lui, je crois. Donc, alors, on dirait presque des... Alors, la lumière est très contrastée, on dirait presque... Ce qui donne l'idée de surréalisme, justement, c'est qu'ils ont l'air un petit peu figés et ailleurs. De toute façon, on pourrait presque dire que le surréalisme est un romantisme contemporain, parce qu'on est toujours dans l'idée d'un surréel, d'un ailleurs, le surréalisme. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui, effectivement, dans les peintures romantiques, en suggérant toujours la fascination d'ailleurs pour la folie, pour le rêve, pour l'ailleurs, pour le lointain, la difficulté d'être dans le monde tel qu'il est, la déchirure, tous ces moments, c'est les thèmes qu'on retrouve quasiment chez beaucoup de peintres surréalistes, c'est vrai. Et l'idée aussi d'un temps qui s'arrête, d'un temps suspendu, c'est aussi cette idée-là. Puisque le temps n'amène que des conneries, le temps nous ramène au réel, suspendre le temps, ce qui donne un peu l'impression dans ces figures, c'est aussi quelque chose qui peut être assimilé à ce type de peinture. Le paysage aussi, une sorte d'universel, on ne sait pas où ils sont. Hein, quelque chose dans un monde là aussi, à la fois beau mais un peu inquiétant. Et pour des jeunes avec une part d'ombre, hein, devenue très très contrastée, presque inquiétant, on dirait presque l'exorciste, les visages et les regards figés. Donc vous voyez qu'il réussit à mettre une tension dans, chez Géricault, il y a quasiment toujours de la tension. Tension, liberté, que ce soit les portraits de Bourdon, les portraits d'enfants, ou les grands sujets, il y a quelque chose qui est vraiment récurrent. Et ça c'est un portrait de jeune homme, là encore, hein, cheveux au vent, coupe moderne, les yeux presque brillants, un grand col blanc. Là encore, un air encore mélancolique. Et cette femme-là, alors là, il ne s'agit pas de Géricault, il s'agit de Delacroix, justement. Alors là, je vous parlais un peu de Delacroix, Eugène Delacroix, mais vous voyez qu'on est proche. Alors, il est connu, Delacroix est un peu plus jeune, et je crois bien me souvenir, à vérifier, mais je crois qu'il a même été formé par Géricault. Géricault est mort à 37 ans. Delacroix l'a accompagné à ses débuts, où il était jeune. J'ai écouté un peu comme un grand frère. Et c'est pour ça, d'ailleurs, parfois, on les confond encore. Hein. On dit Radeau de la Méduse, La Liberté dans le Peuple, Géricault de la Croix, il y a même des sonorités, il y a des choses qu'on associe. Et tous les deux sont romantiques, effectivement. Ouais. Alors, vous allez voir avec de la Croix que ça va. Il va y avoir quelque chose qui va être un peu proche, et puis ça va dériver vers d'autres valeurs. Et là, je vais vous montrer les artistes qui sont autour de Géricault. De même type d'aspiration, mais qui vont aller explorer aussi d'autres domaines. Par exemple, ici, c'est quand même le sujet en 1822, c'est une mad woman sur une femme folle. Donc, si vous voulez, vous voyez que c'est un thème qui n'est pas propre à Géricault, que même Delacroix reprend. On retrouve la bouche pincée, les yeux ailleurs, hein, et les cheveux un peu défaits, comme si effectivement le monde extérieur n'existait pas pour elle, elle est dans une sorte de solitude aussi, fond très sombre, et. Alors, elle n'a pas l'espèce de tragique, de solitude, d'enfermement sur soi des monomanes de Géricault, puisque elle a quand même une sorte d'ouverture vers, cette fois-ci un ailleurs. Les monomanes de Géricault étaient totalement enfermés. C'était une sorte d'implosion dans leur être. Là, il y a quand même une sorte de mouvement vers l'extérieur, et une tension, et encore une humidité dans le regard. Il voit que chez Delacroix, il y a une dimension peut-être un peu plus dynamique, un peu moins mélancolique. Hein, et on va le voir dans plusieurs de ses œuvres. Alors, justement, celle-ci, alors là, j'ai un faible pour cette peinture, pour moi, c'est peut-être un des plus beaux portraits avec la jeune fille à la perle, par exemple. Parce que là, Delacroix réussit à concentrer quasiment toutes ses idées sur un portrait. Alors le titre c'est « Jeune fille grecque dans un cimetière ».« Jeune fille grecque dans un cimetière ». Alors, si vous voulez, imaginez la comparaison, là, je ne l'ai pas faite, mais ça serait pas mal de mettre celle-ci à côté d'une des monomanes. Là, tout d'un coup, vous voyez que, et là, il y a quand même question de la mort, il y a question de la solitude, il y a question de la liberté, il y a question de tout cela, mais tout d'un coup, au lieu d'être dans l'implosion, on est dans une sorte de torsion qui va vers un ailleurs. Une torsion positive, au lieu de se renfermer, là, au contraire, elle se détourne. Alors là, la composition de la croix est absolument géniale. Très simple, mais absolument remarquable. Le cimetière est signifié juste par quelques croix ici, puis des stèles ici musulmanes. Parce qu'il s'agit, en fait, dans le titre, beaucoup de choses sont dites, y compris dans le style, « Jeune fille grecque dans un cimetière ». C'est parce qu'en fait, certains jeunes artistes et jeunes romantiques vont se passionner pour la lutte des Grecs contre l'occupation ottomane et turque. Alors, c'est par délégation un combat pour la liberté que eux ne peuvent plus faire en France, mais ils vont trouver des gens qui se battent pour la liberté contre l'oppresseur dans un autre pays. Et d'un coup, la lutte des Grecs va leur sembler finalement une sorte, un peu comme quand on était jeune, la lutte des Vietnamiens contre l'impérialisme américain, enfin, je sais pas, pour moi, par exemple, ou d'autres, c'est tout d'un coup, on se dit, waouh, hein, ou alors, ça peut être d'autres choses, mais tout d'un coup, ouais, c'est la lutte d'un peuple qui se fait pour la liberté, tout d'un coup, ça peut nous enthousiasmer, d'autant plus que nous, on réussit pas à le faire, on dit par délégation. Ben, en fait, ça, là, ça commence là, l'importance des Grecs. Par exemple, Lord Byron, le poète anglais, va s'engager, va même mourir, effectivement, en allant s'engager auprès des Grecs, contre les Turcs. Vous aviez aussi cette idée qu'un peuple se réveillait, un peuple qui avait été humilié, avec une grande tradition, le peuple grec, d'un coup humilié, qui se réveille, qui retrouve une sorte de grandeur. Donc l'idée de la liberté, l'idée de l'ailleurs, l'idée de l'action, c'est quelque chose qui est intéressant. Et ici, c'est la mort, mais cette fois-ci, on n'est plus mort pour rien. Elle est là, justement, peut-être qu'elle est venue pleurer un père, un frère, une mère, une sœur, on ne sait pas. Et en même temps, elle se tourne, cette fois-ci, hein, vers un lointain positif. Alors là, Delacroix réussit à faire quelque chose d'absolument remarquable, c'est qu'à la fois, il est d'un très grand classicisme. Si vous regardez bien la diagonale ici, parfaite, je pourrais la faire au compas et à la règle, ping, le milieu, c'est juste le tendon du cou. Le tendon du cou, qui fait comme une sorte de croix, de losange, et se détourne. Qui est en même temps la partie la plus fragile, c'est principalement la carotide, donc. Vous imaginez, c'est à la fois la plus fragile pour la mort, etc. Et en même temps, c'est aussi quelque chose de très sensuel. C'est le cou dans lequel on peut se blottir, caresser, embrasser, etc. Vous voyez, elle offre une grande fragilité. Mais en même temps, c'est aussi le lieu où elle pivote. Parce que tout d'un coup, le cou va pivoter. Hein, va pivoter. Et vous allez avoir donc une structure qui est à la fois totalement symétrique avec un point central, une pyramide absolument parfaite ici, qui part de la base, qui est là. Mais, donc, quelque chose qui a l'air symétrique, et en même temps, vous avez une autre logique, qui est une logique d'ouverture. Parce que si vous regardez bien, vous avez, comme dans le chevalier chargeant, c'est exact, c'est presque la même composition, le cavalier chargeant de Jésus, pour s'appuyer sur la partie gauche pour bondir vers la droite, et bien là, c'est pareil, vous avez en même temps une ouverture vers la droite par la clarté. Alors ici, regardez, une sorte d'angle sombre, avec sa robe et sa manche. Vous avez ensuite un angle tout blanc fait par son chemisier, puis ici une sorte d'angle fait par son cou et son épaule, puis repris par un angle repris par sa mâchoire, puis par ses yeux, puis par son nez, puis par sa bouche. Comme une sorte d'ouverture en cascade vers les yeux, vers la bouche, vers le nez. Tout d'un coup, elles vont vers l'ouverture. Donc il y a une sorte de symétrie, de rotation qui va vers un ailleurs, avec aussi quelque chose qui est remarquable dans cette œuvre. Alors, en plus, j'ai une bonne définition. C'est la bouche entrouverte avec les dents, très rare, très très rare en peinture, et tout d'un coup le souffle, tout d'un coup, comme si tout d'un coup cette torsion faisait qu'elle allait exhaler et respirer. On a presque l'idée qu'elle est là le matin, le nez un peu rouge, les joues un peu rouges, les yeux humides, là aussi, donc une, et les lèvres aussi entrouvertes, hein, donc vous avez cette sensation-ci du climat, de la respiration, de la fraîcheur du matin et de l'air. Donc tout d'un coup, une vie qui palpite, y compris sous la chair, hein, avec cette incarnation extraordinaire, l'humidité des yeux, hein, et y compris le vent légèrement, les boucles derrière qui sont légèrement bouclées, etc. Alors, et tout d'un coup, on va vers une lumière, vers quelque chose de positif. Alors, quel est cet ailleurs, on ne sait pas, etc. Mais tout d'un coup, vous avez une figure comme ça qui s'ouvre, hein, qui part de la mort pour aller vers, au contraire, quelque chose de parfaitement clair. Et Delacroix introduit aussi des éléments qu'il n'y a pas chez Géricault, c'est des couleurs pures, des couleurs qui sont encore timides, mais le rouge, le bleu, le jaune, hein, alors, bon, évidemment, vous avez du jaune dans le ciel, vous avez le rouge de la carnation ici-là, et vous avez le léger bleu du ciel, parce que les couleurs vont devenir, chez Delacroix, le véhicule aussi d'émotions. On n'est plus dans la simple déchirure, qui était un peu le noir et le blanc, de catastrophe. Ici, vous avez effectivement une déchirure, une torsion, mais qui va vers quelque chose, une aspiration confuse, on ne sait pas vers quoi elle se tourne, mais ça c'est typique aussi du romantisme, même chez Géricault, le cavalier, c'est pas vers où on va, et là, il y a encore quelque chose ici de remarquable. Là où c'est beau aussi, c'est qu'on a l'impression que le fait de se tourner fait qu'elle exhale cette espèce de souffle, cette respiration, et tout ceci, hein, la communication, le nez, la bouche et les yeux, totalement en relation avec l'air qui est représenté ici. Donc c'est une œuvre très concentrée, très concentré, ce qui n'est pas le fait habituel de Delacroix qui fait des grandes machines. Alors attendez, voilà, avant de prendre la liberté sur les barricades, une des choses que Delacroix avait faites et qui avait été presque une caricaturée et puis extrêmement critiquée, puisque c'était une sorte de, on était dans l'excès, de folie et de tous les excès du romantisme. C'est la mort de Sardanapale, qui est au Louvre également. Sardanapale, le voilà, S-A-R-D-A-N-A-P-A-L-E, Sardanapale, qui aurait été un prince byzantin, et qui, se sachant condamné par assiégé, je sais plus si c'est par les croisés, etc., sachant qu'il est condamné à une mort certaine, avant de mourir, fait exécuter tout son harem et son écurie, les femmes et les chevaux. Donc, vous savez. Voilà. Et dans la mort. Alors là, vous avez une sorte de d'excès de tous les ailleurs romantiques. L'Orient, le passé, la mort, l'amour, l'animalité, l'érotisme, et toute cette espèce, donc vous avez une sorte de confusion ici, tout est une sorte de concentration, une agitation du romantisme. Vous avez quelque chose qui est typique de ces peintres romantiques du début du romantisme, c'est la symétrie, regardez, une figure blanche tournée vers la droite, une figure noire tournée vers la gauche, un personnage ici qui fait un contrepoint, le cheval qui fait contrepoint, un corps blanc ici, un corps blanc de l'autre côté, donc à chaque fois vous avez un système de symétrie, hein, mais en même temps, une dissymétrie dans la symétrie, c'est que vous avez une sorte de brèche rouge qui part de la tête de Sardanapale et qui découle vers un flot d'arabesques. Alors là, c'est typique aussi des arabesques, les circulations, hein, parce que là, il n'y a presque plus une seule ligne verticale, plus une seule ligne horizontale, sauf sur le lit, et encore. Et là, au contraire, vous avez une multitude de courbes. Alors, Delacroix, quand il a fait ça, c'est presque une sorte de morceau de bravoure, et il est assez jeune. Ça a fait un peu scandale. Certains ont dit que ce n'était pas la mort de Sardanapale, mais la mort de la peinture. Parce que tout d'un coup, justement, ça allait trop loin. La légende dit que même le baron Gros, dont je vous ai présenté les peintures dans l'épopée napoléonienne, ce qu'a fait Napoléon sur le champ de bataille d'Eylau et les pestiférés de Jaffa, on dit même qu'il se serait suicidé presque à cause de ça. Je vous explique, c'est Gros qui avait formé ces jeunes artistes. Et en gros, Gros a pensé qu'ils allaient beaucoup trop loin. Que tout d'un coup, ils perdaient leur sens, ils perdaient leur sujet, ils perdaient les idées, ils se vautraient dans des sortes d'excès. Et pour lui, en plus du contexte politique qui était napoléonien, etc., donc c'est à voir, mais le baron Gros, c'est peut-être un des seuls suicidés esthétiques. Mais c'est quand même assez intéressant, parce que ça vous montre qu'il y avait des enjeux qui étaient forts et que des gens comme Delacroix et Géricault allaient très très loin. Alors, cette espèce d'excès, là, il y a les batailles esthétiques, vous avez vu Victor Hugo, Hernani, c'est des choses qu'on a trouvées souvent hein, au XIXe siècle. Mais ça, c'est assez typique. Alors, il y a la folie. Alors, la folie, cette fois-ci, on a. Ce n'est pas une folie contre soi, c'est une folie contre le monde, contre les autres. Ça, c'est aussi cette idée d'excès, de difficulté à trouver sa place, que ce soit dans la jeune fille sur le cimetière ou que ce soit là. Vous avez toujours cela. Alors, voilà d'ailleurs un des croquis. Hein. D'accord. Alors, les peintures et les ébauches de Delacroix sont assez remarquables, y compris de sa manière de peindre. Delacroix dit parfois que lui, quand il peignait, c'est comme s'il avait des serpents à la place des pinceaux. C'est comme si tout d'un coup, waouh, son pinceau, le guidait sa main, c'est pas sa main qui guidait le pinceau. Donc cette espèce de sinuosité, d'arabesque, de violence comme ça, de sauvagerie, qu'il s'agit de dompter. Ça, c'est un point commun avec Géricault. Vous avez vu, les ébauches de Géricault sont très très libres. Ensuite, elles sont codifiées pour répondre au schéma, à dire, de la peinture quand même du grand salon, hein, la peinture de musée ou de galerie, des choses qui vont être publiques. Mais à l'origine, c'est des peintres qui peignent de façon très différente de David. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est lâcher les fauves qui sont en eux. Donc les peintures, leurs ébauches sont extrêmement libres. Il y a un côté fauve, de toute façon, on va le retrouver ici d'ailleurs dans la violence chez Delacroix, dans l'exotisme, et surtout aussi chez Delacroix dans les couleurs. Fauve au sens strict, plus tard quand on parlera des fauvistes, ça sera aussi une question de couleur, hein, couleur fauve, échelle de la croix, dont vous avez une sorte de sauvagerie du trait, liberté du trait, et aussi quelque chose qui est lâché. Alors, pourquoi est-ce que ça fait peur aussi, cette espèce de liberté, ces audaces et ces excès? Ça fait peur, ben parce que on est dans le siècle, avec la restauration des siècles, de l'ordre. Quand, je ne sais pas si vous avez lu Lucien Levesque de Stendhal, où justement vous avez les choses qui sont terribles, c'est que toutes ces armées françaises, etc., n'ont plus rien à faire, ils appellent ça, ils deviennent des coupe-choux, hein, et une des leurs seules choses à faire dans les armées françaises, en France, c'est de réprimer les révoltes ouvrières et populaires. Hein, il y a ça très clairement dans ce Stendhal, où tout d'un coup vous avez cette espèce de soldatesque, etc., qui rêvait de gloire et qui se retrouve à faire des travaux de répression. Pourquoi on n'a pas tellement changé non plus? Et vous avez cette espèce de décalage, hein, et vous avez aussi l'idée que les nouveaux gouvernements, Charles X, Louis XVIII, un peu moins Louis-Philippe, mais ensuite on verra aussi Napoléon III, ont qu'une angoisse, c'est de revoir la révolution explosée en France. Or, ça va se passer, donc si vous voulez, vous avez une... Et donc, contrôler les forces primitives, contrôler les forces premières, c'est vrai à la fois dans l'économie, contrôler les matières premières, contrôler les flux financiers, contrôler les énergies, c'est tout l'enjeu du 19e siècle. Donc l'idée de maîtrise et de contrôle, c'est vraiment le modèle dominant du 19e siècle. Donc tout ce qui échappe, tout ce qui déborde, tout ce qui est libre, fait peur. Donc quand vous avez des artistes qui explosent littéralement, jouent sur cette idée de liberté, de déchirure, de contrôle et d'éclatement, c'est quelque chose qui inquiète réellement une partie d'un pouvoir politique et culturel qui essaye de se construire. Alors ça, je reviendrai plus tard avec l'académisme et l'art pompier, mais il faut imaginer que Charles X et Louis XVIII reviennent au pouvoir, ensuite les rois reviennent au pouvoir, ils ne peuvent pas refaire l'ancien régime exactement, ils ne peuvent pas refaire Louis XIV ni Louis XVI, c'est fini ça. Donc il faut réinventer, y compris avec des nouvelles composantes, les grands bourgeois, les grands commerçants, les grands industriels, qui, eux, sont pas aristocrates, viennent d'ailleurs. Donc, comment réinventer un pouvoir? Donc, ils ne peuvent pas refaire à l'ancienne. Mais il faut réinventer un pouvoir. Il faut réinventer, y compris, les ors, il faut réinventer l'image du pouvoir, il faut réinventer un art. Donc, si vous avez des enjeux qui sont vraiment très importants dans la représentation. Parce que le 19e siècle, c'est vraiment une lutte permanente sur ces questions-là. Alors ça, c'est encore un de la croix, les massacres de Sion, donc là encore, ce sont des scènes de guerre, il ne s'agit pas tellement de savoir, là, on n'est pas du tout du côté de l'armée, on est du côté des victimes. Ça aussi, ça montre bien, ça. Quel que soit le sujet, quelle que soit la raison, ici, de la croix prend très clairement le parti de la population civile. Victimes, des hommes, des femmes, des enfants, peut-être des combattants, mais qui sont abandonnés, ici le territoire est en feu, vous avez double pyramide, exactement inspirée presque par le radeau de la Vénus, une déchirure totale vers la gauche, vers la droite, des contrastes de lumière incroyables qu'avait montré Géricault dans les chevaux libres à Rome, tout à coup vous aviez des figures en contre-jour et des figures en modelé, vous vous souvenez, je remonte un petit peu, pour aller... ça ira plus vite si je fais comme ça, dans la course de chevaux libres à Rome, voilà, ici, ouvre-toi, César, vous aviez cette idée aussi d'une lumière qui a des grands contrastes, y compris dans la nature de la lumière. Là, vous avez vraiment des contre-jours, des aplats presque blancs, avec une figure presque en silhouette, et là, vous avez des modelés. Et là encore, vous avez cette idée d'une déchirure, d'une butte, etc. Eh bien, Delacroix reprend un petit peu ça dans les massacres de Sion. Alors, ça s'écrit parfois Sion, parfois Chios. Hein. C'est en Grèce, d'ailleurs. C'est toujours lié à la lutte des Grecs, etc. Et vous avez ici les Ottomans, donc on est toujours dans le thème de la Grèce, etc. Et là, donc, le contraste, la déchirure, la mort pour rien, ou ici, plus ou moins, pour la liberté, et puis la tragédie, cette fois-ci, on n'est plus dans l'espèce de rigolade un petit peu de la mort de Sardanapale, qui était une sorte de... Là, il fait écho à des scènes qui sont contemporaines, et vous avez aussi le grand vide. Le grand vide total, c'est un grand ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Vous avez donc une sorte de doute, de déchirure, de solitude, bien qu'étant tous les uns après les autres, ils sont tous seuls. Et puis la beauté des corps et des vêtements et des lumières qui sont aussi un peu exotiques. Alors, on sait, et puis je vous montrerai tout à l'heure des croquis de Delacroix. Delacroix va voyager, va faire des carnets d'Orient qui sont absolument extraordinaires. Il va aller en Afrique du Nord, c'est un des premiers artistes peintres voyageurs. Il ne va pas non plus pour le classicisme, mais pour découvrir de nouveaux mondes. Hein, lui, vous allez avec Delacroix au sens strict, là, c'est quelqu'un qui va explorer et qui va être dans une sorte de quête de nouvelles valeurs. Hein. Cette solitude-là, l'idée d'être pas très bien dans le monde occidental, va l'amener effectivement à aller chercher ailleurs. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que Delacroix, en même temps, c'est quelqu'un qui est totalement intégré. On pense même qu'il était le fils de Talleyrand. Fils caché de Talleyrand. Assez vite, il est quand même reconnu comme un très grand peintre. Il a des commandes, il a du succès, il a, etc. Il est respecté, il a un côté même un peu mondain, mais c'est toute l'ambiguïté remarquable du XIXe siècle. Hein. C'est quelqu'un qui... C'est, même s'il y a des forces, on va dire, réactionnaires, elles ne réussissent pas à enfermer tout ce qu'il y a de vivant dans le XIXe siècle. Donc il est ami de George Sand, etc. Donc vous avez... un monde extrêmement vivant. Donc les romantiques sont, s'ils ne se sentent pas bien dans le monde, c'est pas une exigence très forte, mais en même temps, ils vivent dans ce monde-là. Mais vous avez une quête quand même d'autre chose. Et ça, une tension, comme on la voit chez lui. Et alors ce qu'il y a aussi, alors là, qui est typique de Delacroix, c'est les couleurs. Là, qui s'affirme de plus en plus, des bleus, des jaunes presque purs, une vibration des couleurs, qui fait que Delacroix sera considéré comme un grand maître par tous les grands artistes de la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'en fait, Géricault et Delacroix, Géricault, quelque part, va inspirer les réalistes, et Delacroix va inspirer les impressionnistes. Et vous avez donc un chemin vers ce qu'on appelle la peinture vivante, hein, qui est cette branche du XIXe siècle, qui est une branche où les artistes se posent des questions, recherchent. L'autre branche du XIXe siècle va être l'académisme et l'art pompier. Vous savez, vous avez une sorte de divorce de la peinture au XIXe siècle. Vous avez des branches comme ça d'artistes exigeants, vivants, ouverts, curieux, qui inventent des nouvelles formes, qui risquent de nouvelles compositions, qui osent de nouvelles manières de peindre et qui expriment les tensions du monde moderne. Alors, celle-ci est assez remarquable, y compris, si vous regardez bien, la place que prend le ciel et l'horizon, presque vide, et puis aussi, ce que je vous disais, la déchirure au centre vient, un grand néant, et ça c'est, et puis, la beauté de ces corps morts, et puis en même temps, la violence de la soldatesse qui arrache ici cette femme hein, à son compagnon, hein, qui, et là, l'enfant qui s'est tété encore le sein de sa mère, qui est morte, donc des tragédies effroyables, et des corps qui ne sont pas du tout idéalisés. Alors voilà d'ailleurs un brouillon, hein, vous voyez que là aussi, c'est toujours intéressant de voir les croquis parce qu'on voit bien que l'artiste compose ensuite. Quand je vous dis qu'il y a une déchirure, c'est pas qu'il a inachevé son tableau, c'est qu'il a construit le vide, il a construit la déchirure, il a radicalisé les couleurs et on les voit déjà ici. Le rouge, le jaune, le bleu, le noir et le blanc, qui sont des couleurs de tension, hein, que l'on voit ici, que l'on trouve aussi chez Goya. Et là, vous avez le massacre des innocents, des scènes un peu bibliques. Hein, qui serait un peu revêtu de façon contemporaine. Alors ça, évidemment, là aussi, on est toujours pareil. Le Rwanda célèbre les 25 ans, etc. Donc, alors Delacroix, quand il va en Orient, d'ailleurs, il a l'impression de remonter dans le temps. Il écrit, alors il y a des textes, les carnets de Delacroix sont très intéressants au niveau des peintures, même de ses textes, de ses écrits, parce qu'il décrit ses impressions. Son rapport à la peinture. Il essaie de comprendre, y compris quel peintre il est. C'est quelqu'un qui devient extrêmement vivant et remarquable dans son rapport à l'art et à la peinture. Par exemple, quand il découvre l'Afrique du Nord, il est sidéré d'abord par la beauté, par les costumes, par la manière de vivre, et dit « j'ai l'impression de retrouver l'Antiquité ». Retrouver l'Antiquité, c'est pas gréco-romain, mais retrouver un monde ancien, un monde antique. Donc de voyager dans le temps. Donc vous avez... là aussi, non seulement les costumes, les lumières, les coutumes, les religions qui sont différentes, mais vous avez vraiment là une sorte de voyage dans un ailleurs total. Autre chose que l'on peut noter, là il s'agit des massacres de Sion. Donc c'est des catholiques grecs qui sont massacrés par les musulmans turcs. Et quand il va en Afrique du Nord, il n'a rien contre l'islam. Donc, si vous voulez, ce qui intéresse ici de la croix, ce n'est pas la lutte des chrétiens contre les Ottomans turcs, c'est la lutte pour la liberté. Quand il arrive en Afrique du Nord, même si la colonisation va se faire de façon parfois effroyable, lui, il va surtout admirer la beauté des modes de vie et des coutumes, justement, de l'Afrique du Nord. Il n'y a pas du tout de côté ici religieux, c'est pas du tout son problème. Alors, de la croix, j'ai un peu vite, là, attendez. Je vais ici, parce que j'avais quand même d'autres... Oui, alors que je suis bête, bien sûr, il y a l'essentiel. Le plus important, que je voulais vous montrer, donc, il y a plein de choses sur la croix, mais là, normalement, c'est sur Jéricho seulement. C'est, et bien quand même, la liberté sur les barricades. Parce que justement, ce que je vous disais, qui est assez intéressant ici, c'est que quand Delacroix peint la liberté sur les barricades, c'est pour célébrer les journées de 1830, les journées de juillet 1830. Tout d'un coup, l'idée que, eh bien, ce qui était déchirure, ce qui était abandon, ce qui était solitude, tout d'un coup se reconstituait autour d'une pyramide, autour d'une idée qui culmine sur une idée républicaine, une idée qui dépasse effectivement presque tout le monde. C'est la pointe de la pyramide, c'est le drapeau, hein, qui n'est pas encore le drapeau de la colonisation ou tout ce qu'on veut, c'est le drapeau de la Révolution française. Et vous avez ici presque une citation des morts de Jéricho, des morts du radeau de la Méduse, qui était inversé, qui à droite, l'autre à gauche, qui était mort pour rien. Et là, vous avez des gens qui sont morts, mais pour fonder quelque chose, pour permettre de contribuer à l'idée de se constituer. Et au lieu de se tourner vers un ailleurs, ils vont vers nous. Ils se tournent cette fois-ci vers nous. Ils ne tournent pas le dos, ils ne regardent pas au loin, ils avancent et ils construisent quelque chose. Avec toujours une pyramide, alors là, qui même, regardez, c'est presque fait au cordeau, on pourrait presque mettre la règle ici, sur le point ici, ici. Vous avez les deux morts symétriques, et puis vous avez ici un peuple apparemment débraillé, vous avez l'ouvrier, vous avez le jeune intellectuel, vous avez la femme, sans doute, ouvrière, travailleuse, etc. Et vous avez le gamin, gars proche, etc. Vous avez Notre-Dame de Paris. Alors attention, c'est ce qui fait avant que Victor Hugo ait fait Notre-Dame et les Misérables. Mais on a presque un programme hugolien ici. On peut presque trouver toutes les figures, Marius, Gavroche, etc. Cosette, pas Cosette, Jeanne Thénardier, bref, etc. Donc vous avez presque les figures et Notre-Dame derrière. Et puis la confusion, elle est plus devant, elle est derrière. Rappelez-vous que par exemple dans le cuirassier Chargent, où vous aviez cette idée, dans l'espèce de romantisme un peu napoléonien, de la solitude, c'est qu'on chargeait, pour charger, on ne sait pas où on allait. Et tout d'un coup, vous avez cette idée qu'on peut reconstruire, on peut quitter la confusion pour aller retrouver une réconciliation entre le classicisme et le romantisme. C'est quelque chose, c'est cette idée que d'un coup, on peut retrouver une idée centrale. Alors, vous avez de l'ordre, mais vous avez encore une agitation avec les courbes, ici. Les cours, le baudrier, l'escopette ici, la ceinture de Marianne et le baudrier ici de Gavroche, etc. Donc des courbes, etc. Mais il y a quelque chose qui se structure clairement. Il tourne le dos à la confusion. Et évidemment, vous avez un emblème. Et quelque part, cette figure-là n'est pas sans évoquer la jeune fille grecque dans un cimetière. C'est à peu près le. Vous voyez, donc là, vous avez. Comme si tout d'un coup, le romantisme et la solitude avaient été un passage. Une souffrance, etc., mais que le fond de l'affaire, c'était de pouvoir retrouver une certaine unité, de retrouver une certaine cohésion. L'anecdote pour cette peinture-là, attendez, il faudrait presque que je la trouve, je vous la cherche, oui, parce que c'est quand même assez marrant, mais il faut que je retrouve ça, ça va aller assez vite. C'est que cette peinture qui était là pour célébrer les journées de juillet, eh bien, a été mal vue par les révolutionnaires, bizarrement. A été mal vue par les révolutionnaires de juillet, donc les républicains, etc., puisque ils ont trouvé qu'ils représentaient les révolutionnaires sales, dépenaillés, et c'était pas une belle image de la révolution des journées de juillet 1830. Certains des révolutionnaires auraient voulu une image à la David, auraient voulu une image plus classique. Et là, d'ailleurs, vous avez, je vais zoomer un petit peu. Vous avez d'autres images de ces mêmes journées où là, vous avez quelque chose, vous avez vu, mais qui manque totalement de souffle. Hein. Donc les journées de juillet 1830, vous avez des choses qui sont un peu communes, mais vous avez quelque chose qui évoque un peu le classicisme davidien, comme si effectivement il fallait montrer que la révolution, eh bien, en même temps, elle était nécessaire, elle n'était pas le fait de braillard, d'éponaille, etc. Donc, ce qui est bizarre, c'est que pour Delacroix, qui avait bien senti ce sentiment révolutionnaire, le romantisme révolutionnaire, combinant la liberté et en même temps l'action sur la réalité, eh bien, vous avez une mécompréhension totale, parce que les révolutionnaires n'aimaient pas sa peinture, et ceux qui ont bien aimé sa peinture, parfois, c'est un réactionnaire. Il dit, ah, vous avez bien montré la bande de voyous, hein, et de voyous, ce qu'on fait à la révolution, c'est des dégueulasses, c'est des gens mal peignés, une femme dépoitraillée, un sale gosse, des pseudo-étudiants, etc., crassos, et des ouvriers qui ont l'air plutôt le couteau entre les dents. Donc, si vous voulez, vous avez une... C'est pour ça que les artistes sont parfois bien d'avance, souvent le cas, sur le goût de leur temps. Mais une bonne partie des gens qui étaient révolutionnaires en 1830 avaient encore dans l'idée, dans la tête, ils avaient David, ils avaient ces peintures-là, ils avaient ce genre de choses-là. Donc, si vous voulez, pour eux, représenter la révolution, il fallait que ce soit comme ça. Alors, vous avez aussi les peintures qui sont, cette fois-ci, plus strictement narratives, hein, qui sont presque des illustrations, mais vous voyez bien qu'il y a une grande différence avec effectivement la peinture de Delacroix. Et là, on voit bien que tout en traitant du même sujet, il reste.
Mais celle qui nous a marqué dans l'histoire,
oui.
C'est celle-là.
Ah, bien sûr. Parce que tout est dit, en fait.
Ouais, c'est ça.
Y compris que la révolution, ça passe aussi par. Et que justement, c'est une grandeur de sortir de sa misère pour s'élever, culminer.
Mais ça s'adresse plus à l'inconscient que les deux autres.
Bien, oui, parce qu'il y a des forces qui sont justement en jeu. Et en même temps, elle est très didactique. Si on regarde bien la pyramide, le drapeau français, etc., qui culmine. Alors, ce qui est beau aussi, c'est qu'on... Dans la tradition picturale, c'est devenu aussi une peinture qui... Alors ça, c'est un travail de plasticien, on va dire, pur. C'est que vous avez quelque chose qui est audacieux, c'est que ça culmine vers un aplat de couleur pure. Mm-hmm. Et vous avez cette idée que le drapeau, c'est presque, il est presque à peine plié, c'est presque juste des surfaces de couleurs. Donc d'un coup, il y a tout le modelé, la réalité, la perspective, le noir et le blanc, etc., les volumes, qui d'un coup culminent à la fois géométriquement vers une pointe et vers une épure totale, vers des couleurs et des aplats de couleurs purs. C'est-à-dire, vous avez aussi comme si on quittait le monde de la perspective pour aller vers le monde de la surface et du plan. Bon, ça, c'est un travail un petit peu de marotte de plasticien, on va dire, mais c'est pas complètement. Alors, évidemment, d'ailleurs, elle est tellement forte qu'elle continue à générer des figures, des images, etc. Et y compris. Alors, ce qui est intéressant aussi, là, vous avez une représentation du peuple, ce qu'on ne voyait quasiment jamais. Vous avez une représentation de la population. Donc, vous voyez qu'il y a une part dans le romantisme aussi. Un certain réalisme, et d'ailleurs c'est ce qu'on reproche, ce qu'on a souvent reproché à certains peintres réalistes, que ce soit Géricault, que ce soit Delacroix, l'idée c'est pas de nier la réalité, c'est pas totalement de la fuir, c'est de montrer que dans cette réalité on n'est pas bien, ou alors on voudrait la transformer, mais pour le faire, il faut bien la prendre en compte, il ne faut pas la nier. Donc vous avez chez ces artistes romantiques, vous avez quand même aussi une description du monde réel. Chez Victor Hugo, personne n'a représenté, décrit aussi mieux que lui la misère, des choses comme ça, hein, tout en étant dans un souffle romantique. Mais s'il avait idéalisé ces figures, il n'y aurait pas eu ce souffle-là. Donc la tension romantique, elle vient justement de l'écart entre la prise en compte du réel et tout d'un coup une aspiration. La déchirure, elle vient de là, de ce grand écart. Mais en même temps, d'un point de vue pictural, ça les a amenés à prendre en compte, y compris des figures, des portraits, des situations qui étaient bien réelles. Donc à regarder le monde, il est tout éteint. Voilà. Donc, j'étais là. Alors maintenant, je voulais vous montrer, je termine provisoirement avec le romantisme à la française, hein, qui est lié aussi à l'action, etc. Et justement, ce qui est assez marrant, c'est pas drôle pour eux, mais c'est les romantiques et les co-romantiques hors de France, parce que c'est pas du cocorico, mais justement, la particularité française, c'est d'avoir réussi, par les révolutions successives, a transformé réellement le monde, a bougé avec la force des idées, des conflits, etc. Dans les autres pays, ça ne se fait pas comme ça. Vous savez, ce qui fait que la plupart des pré-romantiques et des romantiques restent souvent dans une solitude et s'enferment parfois dans des figures de folie. On a vu Goya. Goya, qui quelque part est contemporain, hein, il meurt juste. Quand il meurt, le radeau de la Méduse existe déjà. Il parle de contemporanéité entre Goya, David et même Géricault. Et là, vous avez par exemple un artiste, je ne sais plus s'il est suisse ou allemand, qui s'appelle Fuseli. Je crois qu'il est suisse. F-U-3-S-L-I. Et voilà les trois sorcières. Alors, c'est de 1783. Pourquoi ça s'est éteint? Les trois sorcières. Alors Fuseli va être un peintre qui va peindre assez souvent les cauchemars, les rêves. Alors je vais revenir. Donc ça c'est le rêve des bergers. Ça c'est le cauchemar qui s'enfuit par la fenêtre. Et ça aussi c'est le cauchemar. Alors, attendez. Et donc ça c'est autre chose. Alors je vais m'arrêter sur celle-ci puis je reculerai sur les précédentes après. Et là, on est, vous voyez, que on est dans l'originalité d'artistes qui se libèrent de toute convention académique, du paysage, de la scène de genre, pour aller vers l'exploration de la folie, des cauchemars et des rêves, etc. De l'érotisme, avec cette femme totalement abandonnée et qui génère des monstres, avec un cheval aux yeux exorbités, presque à la Goya, mais avec presque des cornes. Hein. Est-ce qu'elle a fumé ou bu? On ne sait pas, parce qu'il y a une sorte de flacon ici. Elle est totalement... elle n'est pas morte, mais elle est abandonnée au rêve, et son abandon génère des figures monstrueuses. Hein. Alors, vous trouvez le même chromatisme, hein, bleu, jaune, rouge, noir, blanc, jaune, hein, une sorte de tension comme ça, des couleurs... Le jaune et le rouge, le noir et le blanc, c'est des choses qu'on va retrouver assez souvent chez Goya. Sangre y oro, sol y sombre, c'est la lumière et l'ombre, le sang et l'or. Hein, qu'on va retrouver dans la mort de Cervantes, on va retrouver assez souvent une sorte de tension comme ça, parfois même chez Picasso, etc. Noir, blanc, jaune, rouge, hein, c'est quelque chose qu'on trouve ici, donc j'ai aussi des chromatismes qui évoquent ces mondes un peu intérieurs, la tension. Et puis des lumières terribles, des apparitions. Alors, ce qui est intéressant avec Fuseli, c'est que c'est totalement libre. Hein. C'est vraiment un peintre, alors vous parlez de surréalisme. Effectivement, il y a, dans le romantisme, ou les pré-romantismes, comme il y a de toute façon cette idée de l'ailleurs, cette idée de la folie, cette idée du passé, cette idée de l'insondable, eh bien, on va retrouver une sorte de méta-réel, comme les surréalismes, une dette à la réalité et une dette à ce qui n'est pas montrable, ce qui est invisible. Et là, vous avez effectivement... Et aussi la question de l'érotisme. Parce que l'érotisme devient aussi quelque chose... Quand on met de côté la religion, tout d'un coup, le corps apparaît dans toute sa complexité. Que ce soit la chair morte, ou la chair vivante, ou le désir, ou la sensualité. Chose qui était quand même mise de côté dans beaucoup d'œuvres précédentes par la religion. C'est comme un peu le peuple aussi, qui était mis de côté parce qu'il n'était pas héroïque, il n'était pas représentable, pas représenté. Donc vous avez pas mal de choses qui ont été écartées de la tradition picturale et qui reviennent au XIXe siècle de façon un peu décalée. Alors là, vous avez ces deux femmes avec le cauchemar qui s'en va par la fenêtre, hein, et cauchemar ou rêve érotique. Alors là, avec une carnation de l'essaim et le dévoilement du corps qui sont très clairement érotiques. Alors, Johann Fuseli, donc, c'est un peintre très original, qui correspond à très peu de contemporains, mais qui vous montre aussi, tout à coup, l'éventail des pratiques artistiques qui peuvent exister à cette période-là. On est vers 1800. Et là encore, c'est le rêve des bergers, c'est presque la heroic fantasy, hein, avec la solitude du berger, la nuit qui dort, etc., qui est peuplée de fées, d'êtres de la nuit, hein, ou de lutins. Fantastique. Alors, il n'y a pas de littérature fantastique. Enfin, ça va commencer, Lovecraft plus tard, tout ça. Mais il y en a très peu. Il n'y a pas de film fantastique. Tout ce qui était la dimension fantastique était dans la religion. C'était effectivement les monstres, le paradis. Et les contes. Voilà. Mais c'est un art populaire. Alors, évidemment, dans l'art populaire, voilà. Alors, Grimm, etc. Mais c'était...
Non, Grimm, ils vont collecter, ils vont transformer. Mais les contes, c'est quelque chose qui est très, très vivant.
Ah oui. Alors, est-ce que dans l'art... Mais c'est pas représenté dans l'art majeur, on va dire. Enfin, dans l'art majeur, ce qu'on appelle l'art majeur.
Mais ça peut inspirer...
Ah, bien sûr. Tout ça, c'est que... Cette idée-là, c'est que justement, il y a une jonction, et on va le voir aussi pendant tout le 19e siècle, c'est de retrouver des traditions populaires ou des richesses populaires. Par exemple, le Barthas Breiz ou Ersar de la ville marquée en Bretagne va essayer de collecter, avant que ça disparaisse, toutes les contes et les gens. Ce qu'on avait vu l'autre fois avec Ossian, c'est aussi retrouver une tradition populaire, comme si effectivement, vous avez raison, il y a toute une part comme ça qui vient d'une sorte de tradition, mais qui n'avait pas droit de citer au sens strict dans l'art de salon, les peintures, les commandes officielles, etc.
Parce que c'était une transmission orale.
C'était une transmission orale. Donc effectivement, il y a cette idée, c'est que l'ailleurs, ben tiens, l'ailleurs ça peut être le lointain, mais ça peut être aussi justement l'univers populaire. On le verra d'ailleurs, hein, des gens comme Gauguin et Van Gogh, très clairement, iront vers un art populaire. C'est quelque chose qui... C'est un enjeu, ça aussi, parce que c'est comme si, pendant des siècles, on avait totalement ignoré une réalité. Et là, par exemple, Fuseli est certainement l'un de ceux... Alors, je crois qu'on a ça aussi dans la musique. Hein. Certains musiciens vont se réinspirer de farandole, de musique populaire, de danse, etc. Pour raviver, y compris la musique de bal, de salon, par être ressourcé par des choses comme ça. Alors, donc voilà Fuseli, c'était pour vous montrer il y a des explorations de certains artistes. Alors il y a aussi un artiste qui lui est particulièrement remarquable, c'est l'artiste anglais William Blake, qui est donc à la fois poète, écrivain, philosophe, il invente une sorte de nouvelle religion, hein, et on est totalement dans le fantastique. Là, par exemple, ça va toujours rire, parce que c'est le dieu des puces, ou l'esprit des puces, Ghost of Fleas, hein, donc c'est une sorte de... Alors, l'univers de William Blake, c'est vraiment totalement imaginaire et halluciné. Hein. Et dans son espèce de reconstitution de la Bible et des figures tutélaires de l'esprit et du monde, il va introduire des vieilles figures bibliques, mais il va introduire aussi, par exemple, Isaac Newton. Donc c'est, ou des peintres, des figures plus ou moins animales, comme ça, on est dans le fantastique. Alors là, vous avez, là, ce sont des artistes qui plongent totalement dans un imaginaire qui s'éloigne vraiment du réel, que ce soit avec Fuseli ou avec William Blake. En ce sens-là, ils sont contemporains. Ils sont contemporains de Géricault, mais vous voyez bien que la folie vue par Géricault ou Goya, hein, et ce monde imaginaire est très très loin de ceux de ces Anglais ou de ces Allemands. Alors, regardez ici, alors ça c'est Abel poursuivi par la conscience de son... Abel, Cain, etc. Donc c'est Abel qui est mort et Cain qui fuit parce qu'il est sa conscience. Alors vous voyez qu'on est vraiment dans une sorte d'allégorie qui s'invente un style totalement imaginaire, y compris que ce soit les paysages, les corps, les anatomies, les postures, quelque chose qui est vraiment totalement... décalé original et... Attendez, il faut que je garde parce que les titres, sinon je ne vais pas m'en souvenir. Là encore, alors c'est Satan... Alors, qu'est-ce que c'est Smitin? Il verse sur Job, sore boils, des soucis, c'est boils, c'est quoi des sore, c'est du souci, donc quelqu'un connaît bien l'anglais.
Sore,
ça veut dire... Il arrose avec des... je ne sais plus ce que c'est, donc... Vous avez vu même Satan représenté effectivement quand le bel ange, en fait, hein, Lucifer, c'est du genre, des paysages imaginaires, un soleil et des astres fantastiques, et on est pas loin du tout, même des héroïques fantaisies contemporaines. Alors oui, mais ça a presque 200 ans, hein, 1800, oui, c'est ça. Donc, 1800-1804. Alors, en général, ces œuvres, c'est... gravures, peintures et aquarelles sont associées à ces poèmes. Donc on a effectivement, de manière très très claire, un monde totalement imaginaire. Alors, de ce point de vue-là, les Anglais seront les champions. L'imaginaire, le fantastique et le merveilleux, la tradition anglaise, et c'est pas réservé aux enfants. C'est vraiment l'idée d'un ailleurs, là, qu'on va trouver jusque même la tradition Harry Potter, hein, qui est pas du tout inintéressant, mais que ce soit l'Église Carole, que ce soit le Seigneur des Anneaux, que ce soit le monde de Narnia, que ce soit toutes ces choses, vous avez toujours des mondes et des univers fantastiques qui sont il y a parfois des sortes de génies de certaines cultures. Alors, avec cette idée aussi en Angleterre, c'est que eux, le monde, il n'est pas changeable. On ne change rien en Angleterre. C'est que vous avez une sorte de stabilité, parce qu'ils ont trouvé le monarchie constitutionnelle, fait que les divisions en classe, elle est établie pour toujours, ça, il n'y a pas de problème. Et vous avez donc, c'est un monde qu'on ne peut pas changer par l'action. Donc, celui d'ailleurs, et bien, on va le trouver vraiment dans le rêve, dans le fantastique, dans l'imaginaire, etc. Une sorte de poésie qui est vraiment totalement libre, y compris parce qu'il n'y a pas tellement d'enjeux non plus. On ne risque rien à délirer, ça ne changera rien. D'ailleurs, en Angleterre, c'est tout bête. Je n'ai pas beaucoup parlé d'Angleterre, parce que les artistes anglais, on en voit peu avant le 19e, 20e siècle. En Angleterre, si vous voulez, vous pouvez avoir très bien un punk effroyable avec une grand-mère anglaise, etc. Ils vont s'aider à manger du sein, ils s'aident à monter dans le bus, ils discutent, etc. Il y a une tolérance incroyable entre eux. Parce que de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Ils ne changeront pas grand-chose, parce que le monde est tellement stable que ça donne une certaine liberté, puisque de toute façon, la liberté ne sera même pas dangereuse. C'est assez incroyable. Je simplifie un peu, mais...
Oui, vous simplifiez.
Je simplifie.
Il y a eu des luttes de mineurs.
Ah ben oui. Mais il y a toujours l'aristocratie. Ah ben bien sûr. Ma femme était même à cette période-là, dans les années 80, elle était en Angleterre, donc j'y allais souvent. Donc il y a des luttes, oui. Mais ces luttes, elles sont... Bah, les luttes des mineurs, on les a vues, les luttes même contre... sur le nucléaire, etc. Mais ça n'ébranle pas l'édifice social. Ouais. Paradoxalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même Ken Loach peut faire tous les conflits qu'il veut, etc., même s'ils sont plus virulents, ça ne bouge rien, quoi. C'est ça qui est terrible. Et en même temps, il y a plus. Il est presque plus libre qu'en France, on n'a pas un cinéma, enfin, je suis méga. On n'a pas un cinéma équivalent à Ken Loach, parce que ça aurait sans doute plus d'impact. Bizarrement. C'est le paradoxe parfois de...
Je ne sais pas, peut-être que le jour où la reine d'Angleterre va disparaître, le monde
voilà.
Va bouger.
Ah ben ça c'est sûr, c'est possible. Parce que... Mais c'est assez drôle de voir exactement à une même période, vous avez, et on verra plus tard avec l'Allemagne, et on verra encore avec Turner, hein. Le prochain c'est Turner, c'est pour ça que je parle aussi de l'Angleterre, c'est pour voir Turner. L'Angleterre c'est un peu particulier. Hein. Et... Alors là, regardez, hein, encore... Ça, c'est toujours de fantaisie. Alors ça, c'est David délivré des eaux. Alors, David, on est très très loin des épisodes bibliques. Là, il s'agit de la punition de Job. Alors là, vous avez Dieu avec ici les tables de la loi, et Job ici avec des monstres, des enfers, etc. Et le pauvre Job qui se lamente, etc. Donc il va surtout trouver dans la Bible plus que le côté moral, c'est le côté fantastique, le côté apocalyptique, les visions de Daniel, etc., ou d'Ézéchiel, hein, c'est toutes ces choses-là. Alors voilà ces chansons d'ailleurs de 1600, hein, ces livres illustrés par lui, hein, ça c'est, je ne sais plus ce que c'est comme mythe, mais vous voyez qu'on se rapproche tout d'un coup de Fuseli aussi, on se rapproche de Fuseli avec les figures de la nuit, les personnages fantastiques, les animaux nocturnes, comme ici, les hiboux, les chouettes.
Ils sont à l'envers.
Et on n'est pas très loin non plus de Goya. Si vous voulez,
c'est bizarre,
là, on avait commencé Goya, on pourrait presque retrouver Goya. Mais ce qui est fascinant, c'est tout à coup de voir, par comparaison, quand on regarde les Allemands, quand on regarde les Anglais, quand on regarde les Espagnols, etc., et quand on regarde la peinture française, qui tout à coup, à la même époque, traite totalement différemment et l'actualité, et la folie, et le rêve, et l'ailleurs. Et même la nuit, et toutes ces choses-là. Vous voyez, tout d'un coup, il y a une énorme différence. Là, on est vraiment dans des solitudes poétiques. Et je continue avec William Blake. Alors voilà, ça c'est assez drôle, c'est Newton. Donc, Newton, dans son panthéon, parce que William Blake invente une sorte de panthéon, il a des pratiques aussi de gravure qui sont remarquables, avec par exemple des effets presque de hasard, vous évoquez les coraux et les mondes sous-marins. Et, alors moi, je ne suis pas un spécialiste de William Blake, il essaie de faire une sorte de cohérence de ce qu'il y a de plus irrationnel et poétique, et en même temps, de véritable savoir. Newton, grand philosophe, mathématicien, physicien, astronome, etc. Mais le même Newton était lui aussi totalement mystique, et a passé des années de sa vie à travailler sur des figures et des théories totalement irrationnelles et délirantes. Vous savez, il n'y a pas de dissociation entre ici la science et la magie chez Newton, par exemple. Il y a un côté parfaitement scientifique qui a établi des lois dont on se sert toujours, qui sont remarquables, y compris sur le cosmos, la gravitation, mais en même temps, vous avez chez Newton des parts entières qui sont totalement irrationnelles et fantaisistes. Donc là aussi, il n'y a pas d'opposition entre rationalité d'un côté et le monde de l'imaginaire. Et c'est un petit peu aussi ce que montre William Blake. De ce point de vue-là, on n'est pas du tout dans le cartésianisme et la séparation des savoirs qu'on peut avoir aussi en France.
On dirait un atoll sur lequel il est.
Comment ?
On dirait qu'il est posé sur un atoll.
Oui, il est assis sur une sorte de roche, y compris sur son corps. Alors, Isaac Newton, quand on regarde son portrait, c'est un personnage avec sa grande perruque, pincé en costume, un personnage à la fois un peu bizarre. Mais là, il déconstruit un peu tout, jusque dans le détail. Donc voilà les. Et là encore, les. Ça, c'est. Évidemment, il va s'intéresser à Dante, à Alighieri, à la vision de l'enfer et du paradis, et avec la Divine Comédie de Dante, qui elle aussi sont des figures un peu fantastiques. Donc, il y a une espèce de. Là, c'est une sorte de douce folie, hein. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de catastrophe, mais il y a en même temps une très grande liberté. De ce point de vue-là, que ça soit Fuseli ou que ça soit Blake, c'est des gens qui. La liberté qu'ils ne trouvent pas ailleurs, ils vont la trouver vraiment dans leur pratique. En se détachant de toute académie, y compris anatomie, des styles, des sujets, des catégories et des genres. Donc, c'est en ce sens-là, c'est remarquable. Dans l'invention, la fantaisie et la maîtrise et la délicatesse de William Blake. Et ça, c'est encore. Alors, évidemment, maintenant, William Blake revient en force avec tous les héroïques fantasy, tous ces trucs-là. William Blake, vous avez des t-shirts qui reprennent ce truc-là, etc. Vous me demandez, ça, c'est assez drôle parce que c'est des choses vraiment qui sont assez fortes. Hein. Alors, William Blake, juste un. Est-ce que vous avez vu le film de Jim Jarmusch qui s'appelle Dead Man?
Oui.
C'est un des premiers films où il y a Leonardo DiCaprio, c'est ça?
Non,
Johnny Depp. Et en fait, justement, c'est un Indien. Et Johnny Depp s'appelle William Blake, mais il s'appelle comme Jean Martin, je ne sais pas quoi. Ouais. Et puis il arrive aux États-Unis. Et puis il y a un grand Indien qui a été élevé en Angleterre et qui est un fan, en tant qu'Indien, Amérindien, il est un fan de William Blake, le poète. Quand il voit arriver quelqu'un qui s'appelle William Blake, il croit que c'est sa réincarnation. Donc il veut le prendre en charge, et il le soigne, il le protège, il devient son ange protecteur. Mais d'ailleurs, dans ce film, c'est assez beau, parce que c'est cette idée que finalement, William Blake, dans cette espèce de pensée à la frontière entre le réel et l'irréel, eh bien, rejoint y compris les pensées. Alors là, on rejoint le surréalisme. On rejoint le surréalisme des mythes. Ouais, des mythes. Et cette idée que, justement, dans le romantisme, il y a cette espèce de liberté où on brise les frontières aussi entre le réel et l'imaginaire. Et c'est pour ça que ce film est très poétique et la culture amérindienne, où justement, il n'y a pas de frontières entre la réalité et les mythes, qui va inspirer d'ailleurs André Breton et beaucoup de surréalistes. Ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui... D'ailleurs, là, on n'est pas loin du surréalisme. Alors, celle-ci, elle est terrible aussi. Ça, c'est le dragon rouge et la femme habillée de soleil. Alors ça, c'est tiré directement de l'Apocalypse. Hein. La femme vêtue de soleil, de lumière, est attaquée par le dragon de l'Apocalypse. Donc, William Blake lui-même va relire dans les traditions bibliques ou mythologiques des figures qui nourrissent aussi son imaginaire et sa liberté. Ça, c'est... Alors celui-ci, je crois que aussi, on voit beaucoup en t-shirt, le dragon rouge, il est top. Et là encore, alors, on voit un peu l'univers. Alors, tic. Alors, attention, ça, ce sont des carnets, hein, c'est des aquarelles, c'est des petites œuvres. Et si vous allez à Londres, vous avez des salles entières à l'ancienne Tate Gallery, pas la Tate moderne, mais la Tate Gallery. Vous avez une aile entière dédiée à Turner et vous avez des salles entières dédiées à William Blake qui sont assez marquables, il n'y a pas grand monde. Et vous avez ces cahiers entiers, parce que là je vous ai montré qu'un exemple, mais c'est un délire extraordinaire avec ces poèmes sur lesquels il va effectivement aussi travailler sur l'écriture et l'imaginaire. Alors, C'est l'heure, oui. Après, voilà. Donc la prochaine fois, on va rester en Angleterre justement avec Turner. Donc ça, il y aura une forme de logique. Et là, on verra encore autre chose. Mais on sera toujours dans le romantisme, cette fois-ci du paysage, qui est un petit peu différent. On va mettre la folie par le paysage. Et donc, c'est la semaine prochaine. Voilà.